Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Cher public, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour cet événement que nous attendons toutes et tous, le festival Livre en Marche. Je remercie dès à présent Dominique Favario, nos 200 bénévoles qui œuvrent énergiquement tout au long de l'année jusqu'au jour J. Ainsi que tous nos merveilleux auteurs, si prestigieux, qui participent au fil du temps à essaimer la matière à penser. Ce soir, nous devions avoir Gallagher Fenwick. Il n'est pas là et il s'en excuse. Pierre Aski, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et effectivement, ravi d'être dans cette salle pleine. Ça fait vraiment plaisir. Je ne vous félicite pas pour le temps, mais merci d'être là.
Faut-il encore vous présenter ? Bon, vous êtes chroniqueur géopolitique dans la matinale France Inter et à l'Obs. Vous êtes également président de l'association Reporters sans frontières. Vous avez été correspondant à Jérusalem. Nous échangerons sur votre dernier ouvrage, Une terre doublement promise, paru chez Stock, et nous terminerons sur quelques points essentiels de l'actualité et vos questions, bien sûr. Il est une fois le 7 octobre 2023. C'est en pleine fête juive de la Simrat Torah, un jour de joie, où l'on termine et recommence le cycle de la lecture de la Torah que plusieurs groupes armés palestiniens coordonnés par le Hamas envahissent le territoire d'Israël. Du ciel, par mer et terre, commettant des incursions meurtrières, visant civils, femmes, enfants, hommes, sans distinction, dans différents kibboutzim, au Festival Nova et dans les bases militaires. L'opération déluge d'Al-Aqsa, menée par le Hamas, tue, selon le décompte de l'agence France-Presse du 14 juillet 2024, 815 civils, 380 militaires et faisant 251 otages. En riposte, l'opération israélienne épée de fer est lancée. Ce 7 octobre est comme ce volcan criblé de météores, d'où coulent des rivières de sang. Vers du poème d'Etel Adnan, poétesse libanaise, dont ces éruptions sous forme de guerre de Sisyphe plongent ces peuples dans l'horreur au quotidien. Ce chiffre si pourtant si magique, symbolisant la paix, le repos à la cité, est imbibé de sang. 50 ans après la guerre de Kippour, certains diront que rien n'a changé, tandis que d'autres affirmeront le contraire. Tout est en mouvement, tels les cœurs suivant les mouvements. Une terre qui s'étend entre les rives de la Méditerranée et le fleuve du Jourdain. Deux peuples qui depuis des décennies s'affrontent autant qu'ils s'ignorent. C'est toutefois au bruissement de l'eau du lac de Tibériade d'où jaillit le son d'une harpe dans ce pays ruisselant de lait et de miel que ces femmes et ces hommes s'éprirent d'espoir. Même si l'histoire ne se réitère pas, il nous faut la comprendre pour connaître les enjeux actuels et futurs, sachant que le monde, les acteurs, évoluent d'une façon ou d'une autre par rapport à leurs propres intérêts. Replongeons-nous dans le passé, si vous le voulez bien, Pierre. Pour naviguer, vous écrivez dans cette histoire humaine, si tragiquement humaine. Qu'appelle-t-on la terre promise ? Du manifeste de Hertz en 1886, adopté la résolution 181, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en novembre 1947, acceptée par le Yeshuv, mais refusée par la quasi-totalité de la communauté arabe. Pourquoi ? Et aux accords d'Oslo, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et surtout, vous écrivez, Hebron est l'une des clés du conflit. Pourquoi ?
Alors, il y a beaucoup de questions en une. Il y a d'abord une première question qui est, quand est-ce qu'on fait démarrer le conflit ? Et la réponse, elle est biaisée, elle est manipulatrice, parce que chacun va faire démarrer le conflit à la date qui l'arrange le plus. Et on voit bien dans un certain nombre des polémiques publiques qui entourent ce conflit piégé que c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on commence. Est-ce qu'on commence le 7 octobre ? Est-ce qu'on commence en 1967 ? Est-ce qu'on commence en 1948 ? Moi, j'ai choisi le sous-titre du livre, c'est « Un siècle de conflit ». C'est un peu plus d'un siècle. Moi, j'ai choisi de démarrer en France avec l'affaire Dreyfus. Ça va peut-être vous surprendre, mais il se trouve que Théodore Herzl, dont vous avez parlé, qui est le père du sionisme moderne, était journaliste autrichien basé à Paris au moment de l'affaire Dreyfus. Et il assiste à la condamnation et à la dégradation du capitaine Dreyfus. Il est présent à l'école militaire quand on dégrade le capitaine Dreyfus. Et il se dit, si dans un pays comme la France, un juif peut être traité de cette manière, nous avons besoin, parce qu'il était juif, d'avoir notre État. Et il écrit un livre qui s'appelle « L'État des Juifs » et qui est le manifeste qui donne naissance au mouvement sioniste et, à la fin du 19e siècle, qui est la période d'émancipation des peuples. Et il est au cœur de l'histoire moderne qui conduira à la naissance d'Israël en 1948, le vote de l'ONU en 1947. Et j'ai décidé de commencer là parce que, d'abord, ce démarrage a lieu en Europe, et c'est en Europe qu'est née cette renaissance qui a conduit à la création de l'État d'Israël, et c'est aussi en Europe que se produit l'élément décisif qui permettra la naissance de cet État, c'est-à-dire la Shoah, la tentative d'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça conditionne beaucoup de choses sur la suite du récit. Une petite parenthèse anecdotique, mais qui est assez époustouflante dans les coïncidences de l'histoire. Il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, j'ai fait un petit livre sur Ben-Gourion. Donc Ben-Gourion, le père, le fondateur de l'État d'Israël. Et Ben-Gourion est né en Pologne. Dans un shtetl, c'est ghetto juif en Pologne. Et lorsqu'il était gamin, son père était un des notables de la communauté. Arrive Théodore Herzl, qui vient faire ce qu'on appellerait aujourd'hui la promo de son livre. Il fait le tour des communautés juives pour parler de son idée d'État juif et présenter son livre. Et il est reçu dans la maison de Ben-Gourion par le père de Ben-Gourion, qui invite les notables de la communauté à écouter ce prophète des temps modernes qu'est Herzl. Et on peut imaginer, on n'a pas évidemment de récit de ce qui s'est passé ce soir-là, mais on peut imaginer le petit Ben-Gourion qui écoute à la porte les grands qui parlent. Et c'est vertigineux de se dire que cet enfant qui a vu passer Ben-Gourion dans sa maison, Herzl dans sa maison, sera l'homme qui proclamera la naissance d'Israël en 1948. C'est assez étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Ben-Gourion, dans ses mémoires, ne parle pas de cet événement. La période polonaise de sa vie, c'est deux pages dans un livre de plusieurs centaines de pages. Parce que c'est l'exil, c'est la diaspora, et il veut tourner la page à cette période, et son livre est ancré dans la réalité de la Palestine de l'époque, puis d'Israël. Et donc, pour trouver cette histoire, j'ai fait des recherches. J'avais fait faire des recherches en Pologne pour ce livre. Et j'ai consacré, moi, 80 pages à la jeunesse polonaise de Ben-Gourion, là où lui n'en consacre que deux. Et c'est assez significatif. Parce que cette période polonaise, elle est significative d'une chose. Lorsque Ben-Gourion arrive en terre donc de Palestine ottomane à l'époque, il a 18 ans, il fait partie de cette première vague de pionniers qui décident de mettre en œuvre les idées de Théodore Herzl. et il arrive dans le port de Jaffa, qui est un port qui existe encore, qui est à côté de Tel Aviv, pour ceux qui y sont allés. Et il écrit une lettre à son père. Et dans cette lettre, il lui dit, je caricature à peine, il lui dit, tu vas pas me croire, il y a des Arabes. Et c'est, on est dans la base du malentendu historique de base, c'est-à-dire ce mythe du peuple sans terre pour une terre sans peuple. Sauf qu'il y avait un peuple. Et qu'on rentre dès ce premier pas de Ben-Gourion sur la terre de Palestine ottomane à l'époque, on rentre dans dans ce qui deviendra cette confrontation de plus en plus grande. Mais donc, c'est toujours difficile de dater le début, mais peut-être que ce premier pas de Ben-Gourion aurait pu être différent, aurait pu conduire à autre chose. Ben-Gourion devient syndicaliste et il participe à la naissance de l'Union des travailleurs de Palestine. Et il y a un grand débat à ce moment-là. Est-ce que ce syndicat doit être le syndicat des travailleurs juifs ou le syndicat de tous les travailleurs de Palestine, donc y compris arabes? Et il y a deux tendances qui s'affrontent. Et c'est celle qui privilégie le fait d'avoir une centrale syndicale de travailleurs juifs qui l'emporte. Parce qu'on est dans la préfiguration de ce qui deviendra un État. Le Yishuv, le mot que vous avez employé tout à l'heure, c'est l'État avant l'État. C'est-à-dire une communauté qui a toutes les caractéristiques d'un État. Un syndicat, des entreprises, des milices armées, une sorte d'une administration, une éducation, une langue, la renaissance de l'hébreu, mais qui n'est pas encore un État, puisque ce sont, après la Première Guerre mondiale, les Britanniques qui sont en charge du mandat sur la Palestine. Donc tout ça, c'est une toile de fond qui est absolument énorme, colossale, parce qu'elle est, elle est pleine de petits détails qui font ce puzzle et qui dessinent cette image d'avant la confrontation. Et donc, si on prend le calendrier, effectivement, l'affaire Dreyfus peut être considérée comme un début d'un compte à rebours, à la fois vers la naissance d'Israël, mais aussi vers la confrontation de ces deux peuples. Et si on prend les dates principales, l'une des grandes dates, c'est évidemment la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, Lord Balfour, ministre britannique, fait une déclaration pendant la Première Guerre mondiale. On est dans le moment où les Anglais n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de défaire les puissances ennemies, dont fait partie l'Empire ottoman. Et pour s'attirer les grâces de toutes les composantes de cette région, les Anglais font des promesses à tout le monde, quitte à régler les contradictions par la suite. Et Laurence d'Arabie étant un des grands protagonistes de cette période, lui qui va soulever les tribus bédouines contre les Ottomans. Et Lord Balfour fait cette déclaration qui dit, il y a deux phrases, qui promet un foyer national au peuple juif. Avec un appendice à cette phrase qu'on oublie souvent de citer, à condition que ça ne perturbe pas la vie des autres communautés et des autres religions de cette région. Mais cette phrase, elle est déterminante, puisque les Anglais qui s'apprêtent à être la puissance administrative de ce territoire promettent au peuple juif un foyer national. Et moi, je me suis appuyé sur un récit, un livre que je vous recommande chaleureusement, en plus du mien, qui est signé par Albert Londres. Albert Londres, c'est le père du journalisme français. Et à l'époque, on est dans les années 20, donc Albert Londres a commencé d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, puis son premier reportage, il l'a fait à vélo, il est allé de Paris à Reims pour le bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands. Et donc en 1929, à l'époque, les journalistes faisaient il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, faisaient de très très longs récits, c'était feuilletonné dans les journaux pour aussi amener les gens à acheter le journal tous les jours. Donc, il faisait des séries de 50 articles. C'était absolument interminable. Et c'est devenu un livre qui s'appelle « Le juif errant est arrivé », aux éditions 10-18. C'est un livre de poche qui est un récit extraordinaire. Albert Londres, excusez-moi, je parle trop.
Non.
Mais vous savez, quand je n'ai pas la limite des 3 minutes, je suis interminable. Donc Albert Londres décide de se demander ce que pensent les Juifs. Ça paraît une drôle de question dit comme ça. Et il démarre à Paris, il va à Londres, il va à Berlin, et là il voit des communautés juives très intégrées qui ne se posent pas la question de créer un État ou c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une concurrence entre 3 forces dans l'opinion juive. Il y avait donc les sionistes qui voulaient créer un État en terre de Palestine, donc à la suite de Herzl. Il y avait les bundistes qui ont disparu aujourd'hui, mais qui ont été à un moment une force très importante, qui étaient des marxistes juifs, qui se disaient...
Intellectuels.
Et pas seulement, parce qu'en Europe centrale et orientale, c'était un mouvement ouvrier qui disait les discriminations, tous les problèmes que subissent les Juifs en Europe disparaîtront avec la révolution socialiste. Et la 3e force, c'était les religieux, qui eux disaient il faut attendre l'arrivée du Messie pour toucher à quoi que ce soit. Et donc, Herzl se demande, Albert Londres, pardon, se demande quel est le rapport de force entre ces 3 courants au sein du peuple juif. Donc, il va dans les pays d'Europe de l'Ouest où il ne voit aucun problème puisque les Allemands lui disent, on est en 1929, hein, Hitler n'est pas encore là. En 1929, les Juifs allemands lui disent, la culture allemande, c'est nous. Pourquoi voulez-vous qu'on quitte l'Allemagne ? Et ensuite, il traverse, il arrive en Pologne. Et là, il voit les ghettos, il voit les discriminations, il voit les pogroms, etc. Et il tombe, c'est une phrase qui est incroyable, il tombe sur un jeune sioniste qui lui dit cette phrase en 1929, qui lui dit « on va tous se faire massacrer ici ». Pourquoi ? Parce que ce sont les religieux qui tiennent le haut du pavé. Et les religieux nous disent « on ne bouge pas tant que le Messie n'est pas là ». Et donc en 1929, cet homme avait l'intuition de ce qui allait arriver par la suite, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et il continue son voyage à Odessa, puis il va en Palestine britannique. Il arrive à Tel Aviv, qui est une ville qui a été créée à peine quelques années auparavant, et il voit les premiers juifs, les futurs Israéliens, dont il raconte qu'ils sont fiers, droits devant eux, et qui n'ont plus les complexes que peuvent avoir ceux qui sont soumis aux discriminations en Europe centrale, etc. Et il rentre en France pour écrire ses articles. Et pendant qu'il écrit ses articles, se produit le premier affrontement sanglant entre juifs et arabes dans cette période moderne, à Hébron. Vous posiez la question, pourquoi Hébron ? En 1929, sur la base de ce qu'on appellerait aujourd'hui une « fake news », il y a une rumeur qui vient de Jérusalem et qui dit qu'il s'est passé quelque chose et les populations arabes de Hébron se vengent sur les Juifs de ce qui ne s'est pas en fait passé à Jérusalem. Il y a 60 et quelques morts, la communauté juive est décimée et Albert Londres décide de retourner pour voir ce qui s'est passé et terminer sa série à chaud à Hébron. Et il rencontre un dignitaire musulman, un cheikh musulman de Hébron, qui lui dit cette phrase qui m'a inspiré le titre du livre « Une terre doublement promise ». Cet homme lui dit « Les Anglais ont promis aux Juifs un foyer national », donc la fameuse déclaration Balfour dont je parlais tout à l'heure. Et il ajoute « Regardez autour de vous, il y a déjà un foyer national, 2 foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre ». Cette phrase était prononcée en 1929 et elle résume un siècle d'histoire. Elle pourrait servir aujourd'hui à résumer la situation de la même manière. 2 foyers nationaux pour la même terre, c'est la guerre. Et on est dans cette situation assez étrange où le 7 octobre est à la fois un événement majeur, traumatique, qui change tout, et on le voit bien à quel point il change la psychologie, les stratégies, les visions politiques, etc. Et en même temps, qui ne change rien, parce que les données fondamentales, elles sont les mêmes, d'une certaine manière, depuis plus d'un siècle.
Dans votre ouvrage, j'ai retrouvé des mots noués de profonds traumatismes. Question mémorielle, Shoah, Nakba, reconnaissance, justice, droit commun pour tous. Y a-t-il une volonté des uns et des autres pour une reconnaissance mutuelle? Et comment ce jeune État, Israël, est-il perçu par les musulmans?
Cette question de la reconnaissance mutuelle, elle est au cœur de tout, non seulement politiquement, et d'une certaine manière, enfin on y reviendra plus tard, mais les accords d'Oslo sont un accord de reconnaissance mutuelle entre l'État d'Israël et l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. C'est la reconnaissance, c'est l'acte que tout le monde attendait, de reconnaissance des deux peuples à travers leurs entités politiques. Mais au-delà de ça, il y a la reconnaissance de ce qu'est l'autre. Et ça, c'est plus compliqué. Et je raconte dans le livre un épisode que j'ai vécu, que j'ai même provoqué. Lorsque j'étais correspondant à Jérusalem, c'était au moment des accords d'Oslo, donc à un moment où on parlait de réconciliation. Les gens étaient prêts à envisager la réconciliation. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a existé. Et il y avait peu de lieux et peu de circonstances dans lesquelles les gens pouvaient se rencontrer, dialoguer. Et j'avais rencontré un professeur d'université israélien et un professeur d'université palestinien qui avaient envie de ce dialogue. Et donc, je les ai invités à dîner chez moi. Et la soirée a commencé, le Palestinien a pris la parole et a dit « Si on veut se réconcilier, il faut qu'on comprenne les peurs, les traumatismes de l'autre. » Et il ajoute « Nous, les Palestiniens, nous n'avons jamais voulu nous intéresser à la Shoah parce qu'on se disait « C'est une histoire européenne, ça n'est pas de notre fait, ça n'est pas dans notre histoire à nous. » Et on n'a aucune raison de prendre ça en considération. Et il ajoutait courageusement, on a eu tort, parce que c'est le traumatisme fondateur des Juifs en Israël, la peur de l'extermination, la peur de disparaître. Et donc, nous, si on veut vivre à vos côtés, on doit comprendre cette peur qui est dans votre inconscient collectif. Donc l'Israélien était très content d'entendre ça, mais le Palestinien a continué et il a dit « Vous, de votre côté, vous les Israéliens, vous devez comprendre notre traumatisme, notre peur à nous, les Palestiniens, et c'est la Nakba. » Et la Nakba, c'est un mot arabe qui signifie la catastrophe et qui décrit ce qui s'est passé en 1948. Donc 48, au moment de la naissance d'Israël, vous l'avez rappelé tout à l'heure brièvement, l'ONU vote un plan de partage. Israël, donc Ben Gourion, accepte ce plan de partage en se disant « on prend ce qu'on nous donne et on verra ensuite ». Et les pays arabes n'acceptent pas parce qu'on ne demande pas leur avis aux Palestiniens. On a des régimes arabes qui sont des féodaux qui voient d'un très mauvais œil la naissance de cet État dans leur région et qui pensent qu'ils vont en faire qu'une bouchée et qui décident de passer à la guerre. Mais les Palestiniens en tant que tels n'avaient aucune existence politique, aucun porte-parole, aucune organisation qui parlait en leur nom. Et de fait, ça s'est fait au-dessus de leur tête et ils en ont été les victimes. Alors il y a une partie des Palestiniens qui ont fui la guerre et il y en a une partie qui ont été chassés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Nakba. Et il y a eu des recherches. C'est très intéressant ce qui s'est passé parce que ça s'est passé du côté israélien. C'est qu'il y a eu une première génération d'historiens, j'allais dire officiels, qui ont entériné la thèse des fondateurs d'Israël, qui était de dire les Arabes ont refusé le plan de partage, ils ont voulu nous faire la guerre, ils l'ont perdu. Et une partie de la population a fui la guerre. Point. Il y a une deuxième génération qui est arrivée, ce qu'on a appelé les nouveaux historiens en Israël, qui ont fait, en puisant dans les archives orales, etc., qui ont fait une nouvelle version dans laquelle on découvre qu'une partie des Palestiniens qui sont partis ont été chassés, que leurs villages ont été rasés, qu'il y a eu des opérations délibérées de nettoyage ethnique et de conquête territoriale. Et cette thèse, elle est totalement scientifique. Ce sont des historiens professionnels qui ont travaillé sur des sources existantes, mais qui n'a jamais été reconnue par l'État d'Israël. Et donc, quand il y a ce dialogue où le Palestinien dit à l'Israélien « Vous devez reconnaître la Nakba comme étant notre grand traumatisme », l'Israélien est choqué parce que autant la Shoah est un événement, à part quelques négationnistes, mais accepté universellement comme faisant partie de l'histoire universelle, autant la Nakba a été révélée et documentée par un certain nombre d'historiens, mais ne fait pas partie ni de l'enseignement, ni même de l'admission par l'État d'Israël qu'il aurait une part de responsabilité. Et donc, l'Israélien n'était pas prêt à franchir ce pas.
Il pensait peut-être aussi qu'il comparait les deux.
Oui, mais c'était pas le but de la conversation n'était pas de savoir qui avait le plus souffert dans l'histoire, c'était de comprendre quelles étaient les peurs et les traumatismes de l'autre. Et de fait, vous voyez, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que lorsqu'il y a eu le 7 octobre, ces peurs ont ressurgi. Quels sont les mots qu'on a employés en Israël? On a parlé de pogrom, on a parlé de retour de la Shoah. Netanyahou a dit que c'était le jour le plus sanglant pour le peuple juif depuis la Shoah. Donc la référence, elle est omniprésente et elle est dans les têtes de tous les gens qui ont vécu cette journée. Et de l'autre côté, lorsque les bombardements de Gaza ont commencé, lorsque l'armée israélienne a demandé aux gens du nord de Gaza de descendre vers le sud, etc., les Palestiniens se sont dit « Nous vivons une nouvelle Nakba ». Et moi, j'étais à un débat quelques semaines après le 7 octobre. J'étais à un débat à l'Institut du monde arabe à Paris. Et il y avait des projections d'images sur un écran. Et on voyait à un moment les images des gens qui fuyaient le nord après avoir été mis en garde par l'armée israélienne que les bombardements allaient commencer. Et donc, les gens descendaient vers le sud. Et vous aviez des milliers et des milliers de personnes qui marchaient à pied en direction du sud avec un ballot d'affaires, avec une poussette, avec un bébé, avec des vieillards qu'on portait, etc. Et dans la salle, le mot, vous avez entendu un murmure tout d'un coup qui était « c'est comme à la Nakba ». Et les gens ont eu il y avait une historienne palestinienne qui était dans le débat avec moi et qui était anglophone et qui employait l'expression ongoing Nakba, c'est-à-dire une Nakba permanente. Et donc, chacun est revenu à ses traumatismes historiques. Les Juifs à la Shoah, les Palestiniens à la Nakba. Et on voit bien que tant qu'il n'y aura pas de confrontation mémorielle, d'une certaine manière, qui est le premier pas vers vers le fait de surmonter ces divisions mémorielles, il ne peut pas y avoir non plus de réconciliation. Personne ne parle de réconciliation aujourd'hui, mais même d'entente ou de reconnaissance politique. Parce que chacun regarde l'autre avec le prisme de son histoire et de ses peurs.
Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme s'est amplifié en France, dans le monde et de manière brutale. On y voit même en France un affrontement de systèmes de pensée. Alors même, comment est-ce possible que ce conflit se soit importé en France?
Alors,
sommes-nous dans un combat d'une vision du monde, d'une nouvelle vision du monde?
Je vais peut-être vous surprendre, mais alors d'abord, je vous dis d'où je parle. Moi, je suis d'une famille juive. Je suis né à Tunis. Ma famille est venue ici et j'ai une partie de ma famille qui vit en Israël. Mon père est enterré en Israël. Donc, je ne suis pas totalement indifférent à cette question par définition. Et je récuse l'idée de l'importation du conflit. Il est évident que c'est un conflit absolument majeur sur le plan émotionnelle qui résonne dans le monde entier, dans une partie du monde entier, pas partout, mais en partie, parce qu'il touche au lieu de naissance des trois religions du livre et que ça a évidemment des répercussions partout. Il se trouve aussi que la France a la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive d'Europe. Et donc, que une partie de la population française qui a des attaches émotionnelles, spirituelles, religieuses pour certains, personnelles dans d'autres, avec cette partie du monde, ne soit pas indifférente à ce qui s'y passe, et qu'on ait à l'époque des réseaux sociaux, des sentiments qui s'enflamment très vite, etc. Après, oui, il y a eu une montée d'antisémitisme, oui, il s'est passé beaucoup de choses, mais il ne s'est rien passé d'irrémédiable, quand même. Quand on parle d'importation du conflit, il n'y a pas eu de pogrom en France, il n'y a pas eu de massacre ou d'affrontement généralisé, il y a un nombre d'incidents qui est alarmant et qui est inacceptable. C'est clair. Ça n'a pas de place dans une société comme la France. Mais prenons garde à ne pas exagérer la portée de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même émotion qu'il y a un an et que les choses ne sont pas aussi dramatiques qu'on pouvait l'imaginer il y a un an lorsque les événements ont éclaté. Et n'oublions pas aussi que ça peut être instrumentalisé. Lorsqu'il y a eu cette série d'étoiles de David sur les murs de Paris, vous vous souvenez de cette histoire, les gens qui ont été arrêtés pour ça, c'était des Moldaves payés par des Russes. C'est-à-dire que vous avez l'instrumentalisation des points de fracture de notre société par ceux qui veulent que notre société se fracture. Et là, on est dans quelque chose à laquelle il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on est, est dans un monde, et ça ne concerne pas que la France, évidemment, dans un monde où les faiblesses internes de nos sociétés sont utilisées par ceux qui veulent notre perte, d'une certaine manière. Et vous trouvez ça aux États-Unis, vous trouvez ça dans une bonne partie de l'Europe, et vous trouvez ça dans d'autres pays, autour d'autres thématiques, par d'autres acteurs. Donc on est dans un monde où la technologie, hélas, a décuplé les moyens de ce qui était autrefois plus compliqué à faire, c'est-à-dire la désinformation, la manipulation, l'incitation au conflit et à la haine. Donc moi, oui, il y a un vrai souci, un vrai problème, et il ne faut pas le minimiser, mais il ne faut pas l'exagérer non plus.
Justement, problème technique sur le terrain, en Israël et en Palestine, et à Gaza. Pas beaucoup de journalistes pour couvrir.
Non, c'est un cimetière de journalistes, Gaza. Il y a plus d'une centaine de journalistes palestiniens qui ont trouvé la mort. Alors, il y a deux dimensions à ça. La première, c'est qu'effectivement, il y a des bombardements, il faut bien le dire, sans discrimination, c'est-à-dire qu'autant Israël a procédé à des attentats ciblés contre un certain nombre de commandants du Hezbollah ou autres avant les derniers événements, mais pendant plusieurs mois il y a eu des attentats ciblés, autant à Gaza on a bombardé assez largement et de manière indiscriminée. Et donc il y a des journalistes qui se sont trouvés dans les décombres des immeubles qui s'écroulaient, mais il y en a d'autres dont on sait qu'ils ont été ciblés. C'est-à-dire que l'armée israélienne a eu ce choix stratégique qui est d'essayer de faire un blackout autour de Gaza. Aucun journaliste étranger n'a pu rentrer, ou israélien d'ailleurs, n'a pu entrer à Gaza depuis un an, et les journalistes palestiniens ont été progressivement réduit au silence par la mort. Ça n'empêche pas qu'il y ait quand même beaucoup de témoignages qui sortent, parce qu'il y a des humanitaires qui y vont. Il y a des quand vous avez un chirurgien français qui va passer 10 jours à Gaza et qui revient en racontant comment il a amputer un enfant sans anesthésie sur le sol parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Voilà, c'est des témoignages incontestables de l'horreur et de la souffrance qui s'y déroulent. Mais c'est vrai qu'on est dans un univers dans lequel l'information est une arme et est piégée. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, journalistes, d'essayer de ne pas tomber dans les pièges, parce qu'il y en a beaucoup, et d'essayer d'être au plus près de ce qui est vérifiable, de ce qui est quantifiable, de ce qui est... Voilà, il y a ce chiffre, par exemple, du nombre de morts. Ce chiffre qui est maintenant à 41 586, je crois, avec une précision diabolique, qui a été donné ce matin, comme tous les jours, par le ministère de la Santé de Gaza, qui est Hamas. Alors au début, on nous a reproché d'utiliser ce chiffre en disant « mais vous utilisez le chiffre de propagande du Hamas ». Quand vous discutez avec les Nations Unies, avec les diplomates occidentaux qui sont présents en Israël et qui sont en contact avec un certain nombre d'acteurs sur place, vous vous rendez compte que si ce chiffre n'est peut-être pas aussi précis que celui que donne le Hamas, c'est-à-dire 41 586, c'est absurde, il est dans un ordre de grandeur qui est certainement réaliste et qui n'est pas très éloigné de la réalité. Donc voilà, tout notre travail à nous, il est de faire avec les données dont nous disposons, qui sont parfois biaisées, parfois fausses, parfois manipulatrices, mais d'autre part, avec un nombre de témoignages qui, eux, restent valables et avérés. Et donc, c'est cette voie étroite que doivent suivre les journalistes pour vous informer. Et elle n'est pas facile parce que c'est évidemment un sujet dans lequel les émotions sont très fortes. Il y avait l'autre jour on m'a posé la question c'est un lycéen qui m'avait posé la question en disant comment je faisais pour ne pas céder à l'émotion dans mes chroniques. Cette question m'a beaucoup plu et je me suis mis à réfléchir à ça et je me suis dit que instinctivement et sans y réfléchir, j'avais banni l'émotion de mes chroniques. Et je ne sais pas si les auditeurs qui sont dans la salle seront d'accord avec moi. J'essaye de dépassionner la manière dont je parle de tous les conflits, pas seulement celui-ci, mais celui-ci est porteur de beaucoup de questions. Hassan Salamé, qui est accessoirement le père de Léa Salamé, mais qui est surtout un grand diplomate, professeur de sciences politiques, libanais, qui a été émissaire des Nations Unies pour un certain nombre de conflits, qui a été ministre de la Culture dans son pays, professeur à Sciences Po, emploie cette phrase, il dit « l'émotion, c'est la ruine de l'analyse ». Et donc, il faut arriver à parler de ces enjeux, de ce conflit, sans émotion.
Accord d'Abraham. Pourquoi ceux-ci, selon vous, de reconnaissance diplomatique, n'ont-ils pas volé en éclats après le 7 ? Et quels sont leurs intérêts de poursuivre justement en sous-main cet accord ?
Alors, je pense que c'est une question clé, non seulement du passé récent, mais surtout de l'avenir, en fait. Les accords d'Abraham, pour rappeler à ceux qui auraient raté cet épisode, c'est l'administration Trump, qui n'a pas fait que du chaos dans le monde, mais qui a terminé des accords qui étaient en gestation et qui les a formalisés pendant son règne, qui sont la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays arabes. Donc vous avez les Émirats arabes unis, vous avez le Bahreïn, vous avez le Soudan, le Maroc, qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà... qui avait déjà des relations diplomatiques avec Israël depuis beaucoup plus longtemps, l'Égypte du temps de Sadat, donc les accords de Camp David, on est dans les années 80, et puis en 93, au moment des accords d'Oslo, la Jordanie, qui a noué des accords diplomatiques avec Israël. Donc vous avez cette série de pays arabes Et le grand test, c'était effectivement, qu'est-ce qui se passe le jour où Israël commence à bombarder Gaza ? Est-ce que ces pays vont se draper dans le... voilà, épouser le sentiment de leur population, parce qu'il faut bien le dire que c'est ce qui se passe, et rompre avec Israël, ou vont maintenir ces accords. Et en fait, ces accords ont tenu bon. Aucun pays arabe n'a rompu avec Israël, et même mieux, l'Arabie Saoudite, qui était en train de négocier à son tour un accord sur les mêmes bases, c'est-à-dire des accords qui ne prévoyaient rien pour les Palestiniens, parce que c'est quand même la grande faiblesse des accords d'Abraham. Et c'est sans doute une des clés de compréhension de cette période. L'Arabie Saoudite était donc en négociation avec Israël. Le prince Mohammed Ben Salman, le prince héritier, avait même donné une interview à une télé américaine quelques jours avant le 7 octobre pour dire « Nous sommes dans les derniers arrangements avant un accord, il y aura un accord ». Même l'Arabie Saoudite dit aujourd'hui, un an après tout ce qui s'est passé à Gaza et ailleurs, nous sommes toujours prêts à signer un accord. À condition, parce qu'ils ont rajouté une condition qui n'existait pas auparavant, que Israël s'engage sur la voie d'un État palestinien. Et c'est là qu'on tombe dans le moment un peu particulier que nous vivons, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui, depuis des mois, parce que tout ça est sur la table depuis le début de l'année, vous avez la possibilité d'avoir un accord, un plan de paix, un plan de je ne sais pas quoi, plan de paix c'est peut-être trop ambitieux, mais en tout cas une esquisse de perspective de paix, patronnée par les États-Unis, avec un certain nombre de pays arabes, dont le pays clé est l'Arabie Saoudite, soutenu par les Européens qui sont un peu les témoins passifs, mais dont la caution morale serait venue en complément, et qui serait mis sur la table à un moment où les combats cesseraient et qui prévoirait la reconnaissance d'Israël par les pays arabes qui ne l'ont pas encore fait et un engagement clair d'Israël en faveur de la solution des deux États. Et en fait, cette possibilité, elle est là, et c'est la grande nouveauté par rapport aux phases de conflit précédentes. C'est que pour la première fois, vous avez le monde arabe qui veut avoir cette relation avec Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Iran de l'autre côté, et qu'ils ont fait le choix d'avoir ces accords de sécurité avec Israël à un moment où tout le monde a des doutes sur la pérennité de la présence américaine, du parapluie américain sécuritaire. L'Arabie Saoudite a été pendant des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le pays phare d'une entente pragmatique avec les États-Unis. Vous prenez notre pétrole et vous assurez notre défense. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant des décennies. L'Aramco, qui est la société américaine qui exploite le pétrole saoudien, c'est un géant, un État dans l'État en Arabie Saoudite, qui est un géant aussi pétrolier mondial. Et l'armée américaine, on l'a vu pendant la guerre du Golfe, etc., était là pour assurer la défense de l'Arabie Saoudite. Cet accord-là, il a subi un premier écueil lorsque l'Iran a attaqué des installations pétrolières saoudiennes à l'époque de Trump. Et Trump n'a pas réagi. Et les Saoudiens ont eu pour la première fois un doute sur la capacité ou la volonté des États-Unis à assurer leur défense. Il y a eu ensuite les bombardements faits par les Houthis du Yémen qui ont envoyé des missiles vers l'Arabie Saoudite. Bref, il y a un contexte dans lequel tous ces pays ont peur d'être confrontés à une nouvelle donne sécuritaire dans laquelle les Américains ne joueraient pas le rôle traditionnel de gendarmes et de protecteurs. Et ils se sont tournés vers Israël pour le faire. Et c'est un tournant historique qu'on a vu à l'œuvre il n'y a pas si longtemps, lorsque, vous vous souvenez qu'au mois d'avril, je crois, l'Iran a envoyé 300 missiles, drones, missiles balistiques en direction d'Israël pour une riposte au bombardement d'un consulat iranien en Syrie par Israël. Et lorsque ces missiles... Alors, la géographie aide à la défense d'Israël puisque entre l'Iran et Israël, il faut traverser d'autres pays, ça met plusieurs heures. Les avions américains, britanniques et français ont décollé en Jordanie et ont aidé à éliminer un certain nombre de ces missiles, drones venus d'Iran. Mais les Jordaniens ont aussi fait décoller leurs avions et ont participé à la défense d'Israël en pleine guerre de Gaza. Et c'est d'autant plus spectaculaire que la reine Rania de Jordanie est palestinienne, que la moitié de la population de Jordanie est d'origine palestinienne, que c'est le pays qui a le plus grand nombre de réfugiés palestiniens depuis 1948. Et pourtant, dans un enjeu global régional, les Jordaniens ont participé à la défense d'Israël face à des armes venues d'Iran. Non seulement ça, mais on a appris ensuite que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite et, semble-t-il, le Qatar, bien que ce soit moins sûr, ont fourni des informations de leur station radar, de leur service de renseignement pour participer à cette opération collective pour empêcher que ces missiles iraniens fassent des dégâts irrémédiables en Israël. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc cette donne-là, elle est fondamentale aujourd'hui pour l'avenir. Pas pour aujourd'hui, on est en plein cœur d'une tragédie monumentale, mais il y aura un après, il y a toujours un après. Et cet après, il ne peut se faire, et c'est là qu'il y a peut-être une petite pointe d'espoir qui reste, et peut se faire avec un monde arabe qui est disposé et prêt à accepter l'existence d'Israël. Et ça, c'est un tournant historique.
Alors justement, ce matin, on a appris la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un risque d'embrasement?
L'embrasement, il est déjà là. Je ne sais pas à quel moment on considère que c'est un embrasement. Il y a eu un changement, effectivement, de règles du jeu, parce que le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est un vaste théâtre dans lequel on meurt, mais aussi on joue des rôles. Et donc, lorsque les événements de Gaza ont commencé, la question c'était de savoir, est-ce que c'est une opération limitée à Gaza le 7 octobre, est-ce que le 7 octobre était un événement limité par le Hamas qui s'en prend à Israël, ou est-ce que c'est un plan concerté régional dans lequel le Hezbollah se mettra à attaquer par le nord, les Houthis par le sud, etc., etc. Et on a très vite eu la réponse parce que le Hezbollah a commencé à bombarder quelques jours après les premières représailles israéliennes à Gaza, mais selon un mode opératoire qui était entendu avec Israël. Ça paraît bizarre de dire ça.
Oui, parce que...
Et on était dans ce qu'on